Donc aujourd'hui nous abordons un passage de l'épître de Paul aux Corinthiens. Je vais vous donner quelques éléments qui permettent d'aborder cette épître dans son ensemble avec le contexte historique. Ensuite on va travailler plus spécifiquement sur le texte qui est au début de cette épître que j'avais retenu pour notre séquence aujourd'hui, et puis qui nous permettra d'enchaîner sur une discussion sur la théologie de la croix, sur notre manière de comprendre ce que peut signifier le symbole de la croix, pas simplement l'objet matériel, mais en termes d'événements. Voilà, donc tout d'abord quelques indications glanées sur le contexte et sur cette épître de Paul aux Corinthiens. Alors les exégètes considèrent que cette lettre pourrait être en fait le rassemblement de plusieurs lettres adressées à Corinthe. Corinthe qui avait besoin d'un soutien sur de nombreuses questions, aussi bien la question de la rivalité, la concurrence théologique, les pratiques sexuelles, la conjugalité, la liturgie, les fonctions ecclésiales. Et tout cela correspond au fait que Corinthe est une société multiculturelle, multiethnique. Je dis ça parce que ça peut nous intéresser par rapport à nous qui sommes également dans une société multiculturelle, multiethnique. Finalement, la façon que Paul a de raisonner ou de penser peut être un bon exemple pour nous. Alors, cette lettre manifestement a été écrite dans les années 56-57, fin 56, début 57, et il écrirait depuis Éphèse. C'est dans les années 50-51 qu'il est allé à Corinthe, avec une église composée de juifs et ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire ceux qui sont des nations, c'est-à-dire les non-juifs, donc convertis dans les années 50. Alors, qu'est-ce qu'est Corinthe ? Corinthe, finalement, c'est la superposition de deux villes. Il y a une ville d'origine grecque sur laquelle est venue, en fait, une ville romaine, une nouvelle Corinthe. Corinthe a été prise par les Romains en 146 avant J.C., donc avant Jésus-Christ, et elle a été fondée par l'autre J.C., Jules César, dit-on, en 44 avant J.C. C'est-à-dire que le territoire est pris vers 146 et la ville est vraiment fondée en 44. Cicéron l'appelle la lumière de toute la Grèce. Il faut se dire que c'est une ville qui est surplombée par, enfin qui est dominée par une acropole à 600 mètres de hauteur. Peut-être certains d'entre vous y sont allés. Moi, je n'ai jamais mis les pieds là-bas, donc je me suis contenté de récupérer les informations. Effectivement, on imagine qu'une acropole à 600 mètres donne ce sentiment majestueux et quelque chose d'impressionnant. Alors, donc, je disais une société multiculturelle, on pourrait dire à l'époque cosmopolite, avec des immigrants pauvres venus non seulement de l'Italie, avec des esclaves libérés, affranchis, qui sont d'origine grecque, syrienne, juive et égyptienne. Et cela donne une population manifestement très active, très entreprenante, qui a réussi à développer une économie, on dirait une nouvelle économie aujourd'hui. Et Crinagoras, au 1er siècle, un poète grec, dit de toutes ces personnes, ou de la plupart de ces personnes, qu'elles sont des fripouilles, parce qu'elles ont réussi dans les affaires, qu'elles se sont enrichies rapidement. Elles se sont enrichies avec deux activités principales, un centre manufacturier qui travaille le bronze et la poterie, et puis le commerce avec deux ports. Sur le plan plus religieux, on y a trouvé les divinités grecques habituelles dans différents temples. On a trouvé aussi des cultes égyptiens, notamment Isis et Sérapis. Et ce que les archéologues finalement ont permis de mettre à jour, et les historiens avec eux, c'est une réputation. En fait, Corinthe, j'allais dire bénéficie, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur terme, d'une réputation de licence sexuelle. Et alors, je parle de réputation parce que on dit qu'il y avait 2000 prêtresses qui adoraient Vénus, Aphrodite, qui étaient des prostituées sacrées, mais les archéologues n'ont finalement retrouvé que 2 temples voués à cette déesse. Donc vous voyez, c'est étonnant cet écart qu'il y a entre ce que les archéologues ont effectivement trouvé et puis ce que l'on peut lire dans les textes qui circulent à l'époque et qui rendent compte d'une réputation. Donc on voit qu'il y a certainement des raisons pour une rumeur qui a amplifié quelque chose de réel. Mais les textes disent que cette ville était appelée la ville de l'amour. Et il semble que des mots grecs pour exprimer la fornication aient été construits à partir du nom de la ville. Et on utilisait le nom de Corinthe pour désigner finalement une sorte de libertinisme. Voilà. Ceci pour expliquer peut-être quelques passages un peu douloureux pour la gente féminine dans l'Épître aux Corinthiens sur le fait que les femmes doivent être voilées, s'abstenir de prendre la parole dans quelques assemblées. Comme je l'avais dit la fois dernière, avec les relations interpersonnelles, il y a peut-être là une réaction de l'apôtre Paul à des pratiques de la ville qui ne correspondent pas à l'idée qu'il se fait de la dignité humaine. J'avais dit finalement une instrumentalisation des femmes dans des cultes où elles étaient enivrées et ça donnait aussi bien à une divination sous l'emprise de l'alcool que une sorte de débauche sexuelle. C'est une hypothèse. Alors, si vous voulez savoir quelle est l'histoire de Paul à Corinthe, eh bien vous pouvez vous reporter au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18. C'est là que l'on découvre Paul qui évangélise la ville. Il évangélise d'abord parmi les Juifs. Il loge chez ses confrères Aquilas et Priscille, qui sont des fabricants de tentes. Et ça nous permet de savoir quelle était l'activité professionnelle de Paul. Vous savez qu'il était prédicateur bénévole. Et en fait, son travail était d'être artisan. Et il travaillait dans les toiles pour tentes. Donc, dans le livre des Actes, on voit qu'il prêche à la synagogue. Et puis ensuite, à partir des versets 5-7, on voit qu'il va s'intéresser aux gentils, donc aux non-juifs. Il va déménager dans la maison de Jason, qui est un craignant Dieu, donc un croyant. Et ça, c'est après l'arrivée de Silas et de Timothée qui viennent de Macédoine et qui peut-être ouvrent les yeux de Paul sur une autre dimension de son ministère, c'est-à-dire un ministère élargi. Aux non-juifs. Il y a des exégètes qui se sont intéressés aux noms qui sont mentionnés dans la lettre, qui ont essayé de faire des recoupements par rapport aux noms qui étaient donnés à Corinthe pour essayer d'avoir une idée de la sociologie des personnes concernées par la prédication de Paul. Et Brown, l'exégète Brown, relève qu'il semble que les convertis de Paul appartenaient aux couches inférieures et moyennes de la société, et donc à partir de l'onomastique, hein, à partir des noms. Donc les couches inférieures et moyennes de la société. Pour la petite histoire, il y a une anecdote assez amusante, c'est les versets 12 à 17. Avant de partir, il y a des juifs qui veulent traîner Paul devant le procurateur, qui s'appelle Gallion. Et en fait, le procurateur va relâcher Paul, et c'est Sosthène, le chef de la synagogue, qui va être battu. C'est-à-dire que dans le conflit qu'il oppose à la synagogue, finalement, il y a un revers de l'histoire, et ce n'est pas Paul qui est brimé, c'est le chef de la synagogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du verset 18 du livre des Actes, on voit l'arrivée, probablement vers 52-56, de missionnaires, qui arrivent donc à Corinthe. On a Apollos, notamment, et il semble avoir été un prédicateur qui a séduit l'auditoire de Paul, qui lui était reparti, qui a créé une sorte d'enthousiasme que Paul va critiquer, et il va y avoir justement, dans cette lettre aux Corinthiens, une tentative de refonder l'unité d'une communauté qui a été divisée par une concurrence. Des prédicateurs concurrents sont venus imposer un style qui n'était pas celui de Paul et qui crée du clivage. Et donc c'est vers 56, durant son séjour à Éphèse, qu'il reçoit des rapports sur Corinthe, notamment des gens de Chloé. Alors, tout au début de l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 11, il est précisé ceci. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. » Donc, Paul reçoit finalement des rapports sur la situation de Corinthe. Et il va même recevoir une lettre des Corinthiens, puisque dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 1, il dit ceci. « Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Donc, vous voyez, il fait aussi référence à un courrier qu'il reçoit des Corinthiens et qui, manifestement, lui expose ses difficultés. Enfin, qui expose les difficultés de la communauté. Alors, je vous trace le tableau de l'Épître aux Corinthiens très rapidement, les quatre grandes parties, comme ça vous l'avez en tête, et puis on peut passer ensuite à notre texte. Donc, dans une première partie, c'est-à-dire du chapitre 1, verset 10, au chapitre 4, verset 21, donc ce qui inclut notre section, il va s'intéresser aux divisions de la communauté. Donc, il rentre bien en tête dans le clivage. Il y a quatre chapitres consacrés au problème de division. Et on n'y prête pas beaucoup attention parce que pour nous, aujourd'hui, il est finalement normal de considérer le christianisme divisé. On s'est habitué à ce qu'il y ait des divisions entre catholiques, protestants et orthodoxes. On s'est habitué à ce qu'il y ait des divisions entre réformés, luthériens, baptistes, mennonites, libristes, etc. Donc aujourd'hui, les divisions ne sont plus étonnantes, mais on voit qu'en fait, elles ne sont pas le fruit d'une histoire tardive. Dès le départ, il y a plusieurs communautés chrétiennes qui sont en rivalité les unes avec les autres. On le voit ici avec Paul, ce sont les premiers écrits, mais il faut être conscient que les premières divisions sont, par exemple, entre les habitants de Jérusalem et les habitants de la Galilée, c'est-à-dire autour de Pierre, d'une part, la Galilée, et autour de Jacques, le frère de Jésus, qui est à Jérusalem. Et puis, il y a les hellénistes, avec Philippe, par exemple, qui va être encore une autre communauté rivale. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que Paul ne va pas défendre son parti, il ne va pas défendre les partisans de Paul, il va défendre l'unité du christianisme. Et il va défendre l'unité du christianisme au nom de Christ, en disant « on n'est pas d'Apollos, on n'est pas de Paul, on est de Christ ». Ensuite, la deuxième partie, c'est à partir du chapitre 5, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 34. C'est les problèmes de comportement. Et les questions de sexe et de mariage vont occuper la moitié de ce sujet. Au fond, la question qui est posée à Paul, c'est quelle est l'incidence de la foi chrétienne sur l'intimité ? Est-ce que la foi chrétienne a quelque chose à dire de notre intimité, de notre conjugalité, de nos pratiques sexuelles, et en fait du moindre aspect de notre vie quotidienne? Pour prendre un exemple, au chapitre 5, les versets 1 à 5 s'intéressent aux relations possibles ou impossibles d'un homme avec sa belle-mère. Vous voyez, on imagine des fois que les rapports sont compliqués avec la belle-mère. Mais ils peuvent être compliqués parce que trop d'attractions. Mais pour bien préciser les choses, c'est en cas de veuvage. En cas de veuvage. Et on verra, enfin on verra pas ici, mais vous pourrez constater que Paul va penser ces questions en utilisant sa connaissance du Premier Testament. Il va notamment se référer au Lévitique. Et donc, il ne va pas complètement penser à nouveau frais ces questions-là, il va les penser d'abord avec son héritage et sa culture juive. Et puis, il y a une question qui est tout à fait intéressante au chapitre 7, les versets 17 à 40. On pourrait appeler ça l'éthique provisoire. L'éthique provisoire, c'est quel comportement avoir en société, avec les autres personnes, dans la perspective d'un retour imminent du Christ. Éthique provisoire parce que bientôt la fin des temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'évidemment, ça relativise le reste du propos de l'apôtre Paul. Vous voyez, quand on veut utiliser ce que dit Paul il y a 2000 ans, pour nous aujourd'hui, qui avons intégré l'idée que le temps va encore durer un peu, il est bon aussi de faire cette transposition d'un homme qui pensait que, finalement, on en avait peut-être pour quelques mois, peut-être avait-il la conviction que ce serait le dernier dimanche où il dirait le Notre Père avant que le royaume s'établisse. Eh bien, du coup, ce qu'il dit des relations humaines, et notamment, par exemple, la question du célibat, est à penser dans ce contexte-là, par opposition à nous qui pensons autrement l'irruption du royaume de Dieu. Donc éthique provisoire, ça devrait avoir tendance à nous faire relativiser le propos de Paul. Il dit « les temps sont courts », pour prendre son expression. Il va y avoir aussi la question de manger de la viande qui a été sacrifiée aux autres dieux. Et alors là, il va répondre très simplement « est-ce que ça pose problème de manger de la viande sacrifiée aux autres dieux ?» Ah non, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Ensuite, Paul va défendre ses droits d'apôtre, et ça sera encore plus vrai dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Finalement, il est un peu rejeté dans les cordes. On lui demande de se justifier. Est-il vraiment apôtre par rapport à Apollos et à d'autres qui ont une sorte de superbe qui pourrait porter ombrage à son ministère? Et puis, chapitre 10 et 11, c'est des problèmes de culte communautaire, notamment au moment de la célébration du repas du Seigneur. Ensuite, troisième partie, c'est les chapitres 12, 13, 14. C'est la question des charismes. Les charismes, c'est un peu les dons personnels, la possibilité de guérir, parler en langue, donc différents charismes. Et voyez qu'ils sont au chapitre 12, au chapitre 14, et au milieu, le chapitre 13, c'est le fameux hymne à l'amour. L'hymne à l'amour qui relativise les savoirs, qui relativise les connaissances, qui relativise même les actes de piété. Tout doit être subordonné à l'amour. Et c'est peut-être une façon de corriger la prétention que certains auraient à posséder des charismes. Finalement, on pourrait dire, j'aurais beau avoir tous les charismes, à déplacer les montagnes, etc., si je n'ai pas l'amour, ben, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Donc, aujourd'hui encore, par rapport à des communautés chrétiennes qui pourraient s'enorgueillir de posséder en son sein des gens qui ont des charismes, le bon critère de la communauté chrétienne, c'est l'agapé plutôt que le charisme. Et puis le chapitre 15, qui est assez connu parce qu'il évoque la question de la résurrection du Christ et donc des chrétiens. Voilà, maintenant je propose qu'on rentre dans notre texte. Vous l'avez donc sous les yeux. Donc on va le prendre verset par verset. Peut-être qu'on ne le lit pas d'une traite, mais on va le découvrir verset par verset. Et bien sûr, toutes les questions, les remarques sont les bienvenues au fil de l'eau. Et puis donc, une fois qu'on aura vu l'ensemble de ce texte, eh bien, on reprendra la question de la théologie de la croix en fonction de vos questions, de vos réactions et des idées ou des questions qui vous passent par la tête. Donc, la prédication de la croix, en fait, c'est le logos de la croix. Le texte grec, c'est le logos de la croix, qui est traduit par les Bibles Second en prédication. Prédication, c'est un terme qui sera utilisé un peu plus tard. Est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, la croix a une double fonction, folie pour les morts, puissance de Dieu pour les sauver. Ce que je relève tout de suite, c'est qu'ici, Paul ne dit pas que c'est la croix qui sauve. La croix, elle est une puissance de Dieu pour ceux qui sont déjà sauvés. Vous voyez, comme si la croix avait une capacité d'intensifier quelque chose. Mais quand certains disent « nous sommes sauvés par la croix », ce n'est pas ce que Paul dit ici. Paul va montrer que la croix a une fonction révélatrice. Aussi bien pour ceux qui sont morts, et ceux qui sont morts dans l'esprit de Paul, ce n'est pas ceux qui ont perdu la vie sur le plan biologique. C'est ceux dont l'existence, ceux dont l'histoire s'est arrêtée. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui ceux qui sont des morts vivants ou des zombies, ceux qui sont à côté de leurs souliers. Vous faites comme vous voulez. Dans ce cas-là, c'est des pompes funèbres. Ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas nés d'en haut, pour reprendre l'entretien avec Nicodème. La croix, finalement, permet de révéler le clivage qui existe entre ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau et les autres, ceux qui le sont. Disons qu'elle met en évidence dans quel clan nous sommes. On va voir quelle va être la fonction de la croix. On va voir qu'elle relativise, par exemple, la sagesse du monde. Elle relativise certaines prétentions religieuses. Et du coup, elle met en évidence notre mode de pensée, notre logique propre, on dirait notre économie. C'est comme si la croix était un prisme à travers lequel on voit nettement la nature de notre personne. On va y revenir de toute façon, hein. On ne va pas tout jouer sur ce verset-là. Mais Paul va finalement dire que l'événement de la croix est ce qui permet de remettre de l'ordre dans l'histoire, en remettant les choses à leur bonne place. Et on va voir comment ça fonctionne.
Moi, j'ai...
Oui. Oui.
Alors, êtes-nous dans la situation de ceux qui périssent ? En quoi est-ce que la croix est une folie ? Ça veut dire quoi ?
Alors, donc, c'est un terme moria qui... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on pourrait le reprendre dans des catégories plus contemporaines avec le normal et le pathologique. On pourrait dire que la folie est de l'ordre du pathologique. Et donc l'absurde est une bonne façon aussi de dire ce que représente la croix. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, et ça va être en fait l'objet de tout ce passage de Paul, c'est de lutter contre l'idée qu'on se fait de Dieu à l'époque. En fait, c'est lutter contre les archétypes religieux. Dieu, c'est Zeus, tout-puissant, impeccable. À la limite, vous savez, c'est comme ces films hollywoodiens où le héros ne transpire pas. Eh bien, on a ici la figure antithétique de cela. Donc c'est une folie parce que imaginer que le divin puisse se révéler sur cet homme mis en croix, ouais, c'est absurde, c'est une folie, c'est du non-sens. Voilà. Et donc, quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas possible d'apprendre quoi que ce soit de Dieu sur cet homme crucifié, c'est quelqu'un qui se place du côté de ceux qui sont dans une théologie de la gloire, dans une théologie de la toute-puissance, dans une mythologie gréco-latine où le divin est dans son Olympe, dans sa superbe. Je caricature un peu la mythologie, mais On verra que sur la question de l'hubris, c'est quand même là-dessus que ça se joue. Oui, c'est-à-dire, ou plutôt, celui qui est mis à mort ne peut pas être considéré comme le vainqueur. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui encore dans une société où ceux qui perdent sont voués aux gémonies. Enfin, vaevitis, c'est quelque chose qui a encore goût de nos jours. Et donc, Paul va dire, eh ben non, en fait, il faut renverser l'échelle des valeurs. Et ça rejoint un peu ce que dit le centurion qui était au pied de la croix dans l'évangile selon Marc, voyant ce qui se passe au moment où Jésus meurt sur la croix, il dit « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». On va de toute façon, avec l'ensemble de ce texte, mettre cela en évidence et puis dans nos discussions. Et on va voir que finalement la stratégie, la pédagogie divine, c'est de rendre la sagesse du monde complètement folle. Alors, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, à votre avis, il est écrit où ? C'est là qu'avoir une Bible sans notes, c'est difficile. Oui ? Voilà, Ésaïe, chapitre 29, verset 14. C'est une citation assez exacte hein, par rapport au grec de la Septante. Donc, la référence paulinienne, elle est dans les Écritures, dans ce qui, à l'époque, sert de Bible, c'est-à-dire la Bible hébraïque, dans sa version grecque. Ici, donc, on a Sophia, la sagesse, et puis l'intelligence, c'est Sunesis. Voilà qui répond un peu à ta question, François. La folie, c'est que ce que l'on estime sage et sur lequel on estime devoir construire toute notre vie va être en fait aboli.
C'est quelque chose qui, dans le contexte philosophique de l'époque, la sagesse, c'était quand même quelque chose qui était prôné, recherché, expliqué par Platon, par...
C'était le but de l'actif.
Donc c'était une valeur très positive pour les Grecs.
Mais pas seulement pour les Grecs, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de la sagesse.
Oui, alors, vous avez tous raison. D'ailleurs, le fait même de dire que la philosophie accordait de l'importance à la sagesse, c'est une sorte de pléonasme, puisque la philosophie, c'est l'amour de la sagesse au sens strict du terme. C'est la philosophia, et c'est de Sophia dont il est question ici. Donc, évidemment, c'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Il est dans une culture grecque à ébranler les fondements même de la société. Puis on va le voir un peu plus loin, il va faire de même avec les fondements juifs ou les fondements du judaïsme de l'époque. Considérant que l'évangile offre une nouvelle voie de pensée et une nouvelle façon de penser les relations au monde. Et donc, briser la sagesse et l'intelligence, c'est un peu comme le déconstructionnisme des années 70, c'est-à-dire démonter des systèmes pour rebâtir quelque chose qui semble plus juste. Une sorte de désaliénation, en fait. Bon, après, je ne voudrais pas rentrer dans l'hypothèse d'une critique marxiste faite par Paul, etc. Ça serait pas du tout... Enfin, ça serait un anachronisme parfait. Mais on va vraiment constater que Paul est celui qui va poser les bases du christianisme social, par exemple, en donnant la possibilité de voir ce qu'est l'identité d'une personne autrement qu'à travers ses talents, autrement qu'à travers ses compétences.
Parce que l'humain au divin.
Disons qu'il va y avoir une divinisation de l'homme selon les nouveaux critères apportés par la croix et pas selon les critères de l'époque. On va le voir qui sont finalement la projection de ce que nous considérons comme le beau, le bon et le juste.
Par l'amour.
Oui, et la confiance en fait. Oui, Paul ne va pas de toute façon établir une politique ou un modèle de société. En revanche, il va construire un nouveau regard sur l'homme, une nouvelle anthropologie, qui est en fait celle qui fonctionne aujourd'hui encore. Je veux dire que liberté, égalité et fraternité, c'est Paul en fait. Non, ce n'est pas nouveau.
Je ne comprends pas, Pastor Bouly, ce discours sur la sagesse, c'est déjà dans l'Ancien Testament et c'est pas tellement une rupture avec.
C'est une rupture, on va le voir légèrement, avec le religieux qui cherche le merveilleux. Hein, c'est sur la question du merveilleux que le judaïsme va être attrapé. On va voir ça dans la suite. Alors, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Très littéralement, Dieu n'a-t-il pas rendu fou la sagesse du monde? C'est-à-dire l'idée de la subversion, l'idée de bouger les lignes. C'est l'idée de Karl Barth d'ailleurs. Karl Barth qui va considérer que la foi chrétienne, c'est un anticonformisme de posture. Parce que le monde développe en permanence des stratégies pour maintenir le pouvoir de ceux qui le possèdent. Et l'Évangile est là pour renverser ces prises de pouvoir, de façon à ce qu'on soit dans l'ordre du service et pas dans l'ordre du pouvoir. Et dire que Dieu a rendu fou la sagesse du monde, quelqu'un comme Jacques Ellul aurait peut-être pu dire qu'il y a là une critique de tout ce que les hommes mettent en place pour assouvir certes leur soif de puissance, mais surtout pour rendre les individus esclaves, à servir en fait. Et ce que Dieu fait ici, c'est une sagesse qui ne peut pas être appréhendé par l'homme, sauf quand l'homme s'oublie lui-même, finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne à la condition qu'on ne soit pas prisonnier de son narcissisme ou de son égoïsme. Et c'est de ça dont va parler la croix, en fait. Hein, avec l'hymne aux Philippiens, Jésus qui n'a pas considéré qu'il devait profiter de sa situation particulière pour être Dieu au-dessus des hommes. Non, il s'est rendu serviteur, semblable à tout homme, prenant la condition de l'esclave et mourant même sur la croix. Se vidant de lui-même, il y a l'idée de la kénose. Oui, mais aussi par rapport à une philosophie grecque qui pouvait considérer que l'individu était... Enfin, disons que ça pouvait confiner à l'individualisme. Vous voyez, on peut dire que le protestantisme a vraiment forgé l'individualisme, et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas un individualisme égoïste, c'est un individualisme responsable. C'est-à-dire qu'on forme des individus qui sont capables d'être en relation avec d'autres individus, ils deviennent des personnes. En fait, c'est du personnalisme. Ici, il est possible que Paul soit aux prises avec des personnalités imbues de leur personne et qui considèrent qu'elles tirent leur identité non pas de l'autre, mais d'elles-mêmes, qu'elles sont auto-fondées avec ce sentiment de toute-puissance, d'être irrésistible.
Il y a cette expression qu'on entend souvent, je me suis fait tout seul.
Ben voilà, ça c'est quelque chose qui ne va pas être vraiment pas porté vrai, par,
c'est
faux, par l'Évangile.
On a besoin des autres.
Oui, oui. Alors, au verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et donc là, c'est vraiment la prédication, c'est le kérigme. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Le kérigme, c'est la proclamation. Une prédication kérigmatique, c'est un peu redondant, mais c'est la prédication qui rend disponible le cœur de la foi. C'est une parole qui, enfin une prédication qui proclame. Et ici, la sagesse du monde donc ne parvient pas à savoir Dieu. C'est un petit peu une lutte contre ce qu'on appelle la théologie naturelle. La théologie naturelle consiste à penser qu'il suffit d'observer le monde, le fonctionnement de la nature, pour découvrir des lois universelles qui ont été voulues par Dieu. La théologie naturelle, c'est par exemple celle qui va déduire à partir de l'observation de la nature quels doivent être les comportements humains, notamment en matière sexuelle. En fait, c'est toujours falsifié. Parce que, par exemple, quand il y a eu les débats sur la question de l'homosexualité, vous avez pu entendre des gens qui disaient « c'est contre nature ». L'observation de la nature, quand elle est faite rigoureusement, et je parle sous le contrôle des biologistes, montre qu'il y a dans le monde animal des pratiques homosexuelles. Et donc l'homosexualité n'est pas contre nature sur le plan biologique, sauf erreur de ma part. Je ne dis pas que ce soit le comportement majoritaire, mais en tous les cas, si on se réfère à la nature, ce n'est pas une façon de disqualifier. Donc la nature est un argument qui a été utilisé pour dire c'est pas moi qui pense ça, c'est Dieu qui l'a inscrit dans le fonctionnement même de la nature, dans le fonctionnement même du monde. Donc vous voyez, c'est une sorte de construction idéologique qui permet de justifier une position personnelle en arguant d'une prétendue idée qui serait consubstantiel au monde, finalement.
C'est un peu ce que disait André Gide, parce qu'il pensait à quelque chose de naturel, ce que vous venez de dire.
En fait, le naturel, ici, n'est pas du tout le critère que Paul va utiliser.
Ouais. Oui, mais
il y a deux logiques concurrentes, en fait. Oui, François.
Ce que Paul reproche à la sagesse humaine,
oui,
c'est de ne pas être tourné vers la connaissance de Dieu.
Oui.
Et le reste de la sagesse n'est pas humaine, n'est pas condamnable. Là, on a l'impression qu'il englobe tout, tout ce qui concerne la sagesse humaine, dans ses rapports avec les autres, l'homme, comment vivre, etc., uniquement parce que cette sagesse n'est pas tournée vers la connaissance de Dieu.
C'est-à-dire qu'il disqualifie une sagesse qui ne serait que la projection de nos idées personnelles. Mais
c'est une mauvaise traduction, c'est-à-dire la puissance.
Qu'est-ce qui devrait être puissance ?
De sagesse.
Ah non, non, c'est Sophia, donc c'est une bonne traduction. Mais la sagesse de Dieu, de toute façon, elle n'arrive pas, je dirais, de manière surnaturelle dans un texte ou dans notre cerveau. Lorsque Paul écrit cela, il l'écrit en ayant les écritures hébraïques dans une main, son expérience personnelle dans l'autre, les débats qu'il a pu avoir avec d'autres devant lui, et il fait une sorte de synthèse. Donc, ce qu'il va appeler la sagesse de Dieu, c'est en fait une sagesse en débat, au lieu d'être une sagesse uniquement produite par la pensée d'une personne ou d'un groupe. Ce que propose Paul ici, c'est d'envisager la véritable sagesse comme le fruit du débat, ou comme le fruit du dialogue, par opposition à une sagesse qui serait fondée sur le régime de la pensée unique, par exemple. Ou une sagesse qui ne serait pas validée par l'expérience des individus. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un système de pensée très bien huilé, mais qui est incapable de donner sens au présent. Parce qu'on a une idéologie qui fonctionne, mais elle fonctionne à vide. Elle ne fonctionne pas en tenant compte du réel des personnes. Les enfants, par exemple, ont des idées très généreuses sur le fonctionnement d'une société. Et notamment, quand les parents ont quelques soucis d'argent, ils imaginent très volontiers une société sans argent. Ça ne marche pas très très bien. Parce que ça n'a pas été confronté au réel. Eh bien, ce que Paul peut peut-être disqualifier, c'est une sagesse qui serait l'émanation soit d'un groupe qui vivrait un peu en autonomie, soit d'un groupe qui n'aurait pas essayé de tester, en fait, son idéologie. Il y a beaucoup de philosophes que vous avez peut-être lus et dont vous vous dites « mais ils ne sont jamais sortis de chez eux ». Ou finalement, ça ne me parle pas. C'est-à-dire que ce sont de belles idées, mais qui n'ont pas prise sur le réel. Ça ne veut pas dire que ce soit inutile, mais du coup, ce sont des philosophies qui ne sont pas construites dans ce dialogue, dans ce débat. Et c'est peut-être ça que Paul fustige. Oui.
Est-ce qu'en 21, on ne peut pas comprendre ça autrement? Quand Dieu dit « mes chemins ne sont pas vos chemins », en fait, tout un genre là. C'est-à-dire que là, tu pointes qu'il y a une radicale différence entre l'homme et Dieu, même dans la recherche de la sagesse. C'est pas de l'identité qui ont une filiation, une continuité.
Ce ne serait pas de même nature.
Ce ne serait pas de même nature. Est-ce que ce n'est pas ça que ça veut dire?
Oui, ça peut vouloir dire ça, mais qu'est-ce qui fait que, finalement, ce n'est pas de même nature? Bien, c'est la manière de l'élaborer qui est différente. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme manière différente d'élaborer une pensée? Vous savez, il y a trois manières d'élaborer une pensée. Il y a soit partir de notre expérience personnelle et en tirer des conclusions générales, soit partir d'un texte sacré ou d'un texte fondateur et en tirer des conséquences pour aujourd'hui, soit faire dialoguer les deux. Hein, donc c'est soit la méthode inductive, soit la méthode déductive, soit la méthode corrélative. Manifestement, ici, Paul va disqualifier une méthode qui serait juste à sens unique. Il s'en prend aux Juifs ensuite. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Alors, les miracles, c'est séméion en grec. Ça veut dire signe. Miracle, c'est une façon de les traduire, mais souvent, dans miracle, on comprend quelque chose qui est spectaculaire, surnaturel. Ici, c'est peut-être quelque chose de plus modeste. C'est les jalons qui, dans le cours de l'histoire, permettent de repérer l'action divine. Donc, on aurait, vous voyez, peut-être ici, d'un côté, le refus d'une sagesse grecque qui est entièrement plongée dans les mythes et une sagesse juive qui est entièrement à la recherche des signes des temps et sans qu'il y ait un dialogue entre les deux. Et donc le dialogue, on va le voir avec le verset 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alors scandale, ça veut dire occasion de chute, et la folie, on la retrouve. Donc, vous voyez, une sorte de troisième voie avec un Jésus crucifié. Eh bien, le Jésus crucifié, pour les Grecs, ça ne peut être que l'inverse de Dieu. c'est inimaginable d'avoir un Dieu crucifié. Et pour la communauté juive, dont on dit qu'elle était aussi aux commandes au moment de l'arrestation et de la condamnation de Jésus, c'est évidemment l'idée que celui qu'on crucifie, c'est celui qu'on refuse de reconnaître comme porteur de la divinité. Et donc, dans les deux cas, le Jésus crucifié, c'est celui dont on ne veut pas, dans les communautés qui sont évoquées ici. C'est-à-dire celui qui est rejeté comme une figure possible du divin.
Mais on ne veut pas non plus du Jésus ressuscité. Donc il y a deux phases dans l'esprit des Grecs. Le Jésus crucifié en tant que Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est un scandale, c'est une absurdité. Mais le Jésus ressuscité, c'est tout aussi un scandale. Enfin, c'est absurde.
Oui, ça sera à Athènes, effectivement, qu'il y aura une dispute là-dessus. Pour Paul, il voit que le scandale arrive parce que pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait crucifixion, en fait. En fait, quand Paul va parler de la croix, il va parler et de la croix et de la résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont inclus dans la formule « la croix ». Et c'est peut-être là qu'il y a un malentendu, en fait. Parce que en lisant Paul, on a l'impression qu'il est dans une théologie sacrificielle où tout est orienté vers la mort, l'assassinat de Jésus. Mais en fait, quand Paul dit la croix, c'est un symbole qui intègre et la mort et la résurrection. C'est bien pour cela qu'ici, il précise le Jésus crucifié. En précisant le Jésus crucifié, on pourrait penser qu'il y a une surdétermination, puisqu'on parle de la croix. Mais en fait, c'est pour insister sur le fait que la croix qui est vide, comme dans nos temples finalement, donc symbole de la résurrection, eh bien elle concerne aussi celui qui a été crucifié. C'est-à-dire qu'en disant le Jésus crucifié, il montre bien que pour lui la croix, c'est pas simplement la crucifixion. La croix, c'est aussi la résurrection.
Mais vous disiez, non, juste un mot. C'était dans la ligne.
Le verset 24. Puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Est-ce qu'il est possible d'envisager qu'il y ait de la puissance et de la sagesse de Dieu dans le seul acte de crucifixion? Est-ce que c'est une puissance de Dieu, la crucifixion? C'est une question que je vous pose. Est-ce que le fait que Jésus soit crucifié, ça atteste la puissance de Dieu?
C'est-à-dire si vous attendez le royaume, vous le disiez tout à l'heure.
C'est pas tout à fait ce qu'on attend de Dieu, ça. Alors, soit vous me faites une réponse de catéchisme très orthodoxe en disant « Oui, c'était le plan de Dieu, c'est ce que voulait Dieu, donc si c'est arrivé, c'est que Dieu a réussi son coup. » Soit cela laisse entendre que la croix, effectivement, intègre et la crucifixion et la résurrection, mais aussi que la crucifixion dit quelque chose de ce qu'est la vraie puissance de Dieu. C'est-à-dire que même quand on pense puissance, on se dit force, on se dit énergie, on se dit rien ne résiste à Dieu. Mais, je reprends l'approche de Wilfred Monod, c'est que la croix donne un nouvel éclairage sur ce qu'est la véritable puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu peut être contrariée. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose qui peut s'exercer à l'infini sans rencontrer de résistance. La puissance de Dieu, elle n'est pas dans une énergie ou dans une force qui renverserait tout. La puissance de Dieu, on va le comprendre, elle se joue dans la question de l'amour, un amour infini, un amour inconditionnel, mais qui peut être contrarié, contrecarré par des oppositions animées par une logique de mort, par exemple.
Les gens de l'époque, à ce moment-là, comprenaient la croix comme une négation, sans la radio.
Mais non, vous avez dit tout à l'heure que le royaume...
Elle est en train de parler.
Oui, mais ouais. Je parle...
Oui, vous disiez donc la croix est une négation...
Parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de la résurrection.
Oui, mais la croix elle-même va être envisagée comme une puissance divine pour la raison suivante. C'est que celui qui est crucifié n'est pas disqualifié. C'est-à-dire que la résurrection, finalement, elle va attester que le ministère de Jésus était valable. La résurrection va attester que celui-ci était fils de Dieu. Autrement dit, celui qui a été, selon la sagesse du monde, minable, qui n'a pas réussi à s'en sortir, qui n'a même pas été fichu d'obtenir un non-lieu ou de commuer sa peine en détention à perpétuité, eh bien, celui dont la sagesse du monde dirait finalement « il a perdu », Dieu va pouvoir dire « non, il est encore la figure de l'homme véritable ». Ben, il va en parler au... il va en parler au verset 25.
Pourquoi opposer la sagesse à la puissance ?
Est-ce que je peux dire quelque chose ?
Non, pour l'instant, ça va. On continue, c'est mieux. La faiblesse, elle intervient un petit peu après. La puissance et la sagesse, elles sont envisagées ici. Elles sont envisagées déjà pour les Juifs et les Grecs qui sont appelés. C'est-à-dire, en fait, ceux qui répondent à l'appel. C'est-à-dire que c'est le regard de la foi qui est capable d'apprécier la puissance et la sagesse de ce qui est à l'œuvre ici. Et c'est ça qui va être qualifié de faiblesse par un regard mondain, en fait, après. Donc, le verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Je reprends l'exemple de Jésus qui se fait arrêter. Jésus se fait arrêter, il reproche même à Pierre d'avoir coupé l'oreille d'un des gardes qui venait, et le texte dit d'ailleurs qu'il répare l'oreille. La puissance divine s'exprime à travers l'attitude de Jésus, qui est une attitude non violente, passive, on peut lui reprocher, mais d'un point de vue divin, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va préserver ses adversaires. Alors, vous voyez, c'est une logique à laquelle on résiste, parce que on comprend bien que Jésus, en voulant préserver ses adversaires, finalement, se présente comme l'agneau qu'on va égorger. Mais en refusant d'infliger aux autres ce qu'ils estiment injuste, donc de la violence, il manifeste l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour des ennemis. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est peut-être qu'il fasse un peu comme dans l'aïkido, c'est qu'il utilise l'énergie de l'adversaire pour neutraliser l'adversaire sans le blesser. Il n'arrive pas à neutraliser l'adversaire. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à empêcher l'escouade de l'arrêter, puis ensuite de le faire condamner, etc. Mais ce qu'il parvient, c'est de ne pas déclencher les hostilités en représailles. Il le dit lui-même. Je pourrais très bien appeler des légions d'anges qui viendraient me sauver, etc. Et dans ce cas-là, c'est le carnage. Donc, la faiblesse de Dieu, elle s'exprime de la manière la plus crue qui soit, dans le fait que rien n'arrive à empêcher Jésus de mourir. Pas même Pilate qui fait de son mieux pour le libérer en disant trois fois « Moi, je n'ai rien à reprocher à cet homme, il est innocent, on va le libérer, vous avez une coutume, ben, on va le libérer. » Et on lui oppose une fin de non-recevoir, non, on préfère libérer Barabbas. Barabbas, qui en araméen veut dire « fils du père », et dont quelques manuscrits grecs ajoutent qu'il s'appelait Jésus. Et donc c'est Jésus, fils du Père, contre Jésus, fils du Père, avec deux logiques qui s'opposent. Ben, il ne faut pas soupirer, c'est intéressant. On a le Jésus, fils du Père, qui est artisan de la violence, face au Jésus, fils du Père, qui est l'artisan de l'action non violente. Quel est le Jésus choisi par la sagesse du monde ? Ben, c'est le Jésus, Barabbas, artisan de la violence. Parce qu'on se dit que celui-là, il va pouvoir résoudre nos problèmes. c'est le plus radical, c'est le plus extrémiste. On se dit que lui, il va casser la baraque, quoi. Alors que l'autre, voilà, ça va pas marcher. Oui.
Barabbas dans la Bible est présenté également comme un servant de Jésus qui s'est fait, mais c'est un ami humain.
Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il incarne la violence. C'est un criminel, pour le coup.
Il y a le fait qu'il s'appelle également Jésus, qu'il soit également le fils du Père, mais ce qui le distingue de l'autre, du vrai Jésus, mm-hmm. c'est que lui est un meurtrier, alors que
ah oui.
Jésus, le vrai, n'est pas.
C'est ça, c'est pour ça qu'on peut finalement avoir deux figures types qui montrent que finalement on est toujours attiré par la violence. Il y a une sorte de mimétisme de la violence. Hein. René Girard, en démontant le procès de Jésus, le met très bien en évidence. Il y a une violence collective dans ce procès-là. Et Jésus propose un autre modèle. Mais c'est fou comme modèle, parce que on sent bien qu'on a envie de sauver sa peau, quoi. Ben, en sauvant sa peau, en fait, on va la perdre selon la logique de l'Évangile. Je prends un exemple. Quand il y a un État qui devient tyrannique et qui fait de la répression sanguinaire parmi les citoyens, prenons l'exemple de la Syrie, par exemple. Bon, on sent bien qu'on a envie d'intervenir militairement. Et il y a même une sorte de consensus sur le fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'intervenir militairement et que c'est comme ça qu'on va sauver la situation. Mais quand on regarde un conflit sur toute son étendue, ce qui sauve au final vraiment, c'est la diplomatie. C'est-à-dire que ce qui permet de ramener la paix au bout du compte, c'est l'action non violente. Et c'est une sorte de renonciation à certaines de ses prétentions. Prenons un autre exemple, le conflit israélo-palestinien. On voit bien que tant que personne ne veut céder quoi que ce soit, ça sera au mieux un statu quo. Et en fait, ça ne peut que s'aggraver. Parce que c'est en fait le registre de l'escalade. On durcit le ton. Et l'Évangile nous met sur la piste du désarmement au sens où on va dédramatiser, enfin dédramatiser pas comme si on disait « oh, c'est pas si grave que ça », mais on va essayer de faire une désescalade. C'est le principe de la désescalade de la violence.
En sachant qu'à court terme, il était perdant, et qu'à long terme, il irait par désarçonner la violence de l'Empire britannique.
Oui, on peut dire que la victoire de Martin Luther King avec les droits civils américains est de cette nature-là aussi. À court terme, on peut dire que la communauté noire a franchement perdu, parce que c'est elle qui s'est fait tabasser, il y a eu des morts, etc. Mais à moyen et long terme, le gain est considérable. Oui, à peu de choses près, oui. Oui, oui. Bon, après, il y a quand même quelques-uns qui ont eu de beaux jours jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme l'abbé Pierre est quand même plutôt un artisan de paix. Il ne s'est pas fait assassiner, mais il était sur un autre projet, plus consensuel. Verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Alors. On reprend un peu les termes grecs parce qu'ils sont intéressants. Donc, vous qui avez été appelés, il y a peu de sages selon la chair. Donc ça, c'est ceux dont on a parlé jusqu'à présent. Il y a peu de puissants. Donc là, c'est la dynamis, hein, c'est la force, c'est ce qui est capable de contraindre. Et puis, il y a peu de nobles, en fait, c'est Eugénéis, c'est il y a peu de bien-nés. E, c'est bien, bon, et Genesis, c'est la naissance.
Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, cette population qui est en tout à fait.
Oui.
Et un milieu moyen,
Oui, oui. Conditions sociales modestes. Pas l'oratoire du Louvre, là. Et vous voyez, le côté subversif, c'est que la dignité de la personne ne dépend pas de sa naissance. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouvera au moment de la Réforme, avec un Calvin qui va casser les états de l'époque. Enfin, je l'avais déjà dit avec la question de la prédestination. Mais c'est de considérer que la dignité d'une personne ne tient pas à sa naissance, elle ne tient pas à ses capacités, et elle ne tient pas non plus à sa sagesse. Autrement dit, la dignité de la personne, elle est offerte. Elle n'est pas construite par la personne. Et ça, en fait, c'est quand même déterminant pour une approche chrétienne de l'individu. C'est que quand nous sommes face à quelqu'un, la qualité de la personne ne dépend pas de ce que l'on voit, de ce qu'elle donne à voir. Elle dépend de ce qui est offert. Et qui est agent de la grâce, sinon nous qui sommes face à cette personne. Et c'est là que c'est redoutable. C'est que du coup, c'est nous qui avons la capacité d'élever ou d'humilier une personne. Et de fait, c'est ce qui se passe. Les rapports que nous entretenons avec les uns et les autres humilient ou font grandir les personnes. C'est pour cela qu'il est toujours utile de penser à la manière que nous avons d'envisager l'autre. Et la théologie nous aide à penser l'autre avec un A majuscule, parce que penser l'autre avec un A majuscule permet de penser les autres, finalement. Donc, ayez une vision du divin évangélique et vous aurez une vision des autres chrétienne. Je ne sais pas si vous appréciez la formule. Elle est de moi. Elle est de moi, elle est de moi. Je viens de la trouver, en fait. Vous m'avez inspiré. Verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ça, vous... On peut le constater en prenant les choses au pied de la lettre. En prenant les choses au pied de la lettre. D'ailleurs, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une vidéo qui circulait sur Internet. C'est quelqu'un qui passe un entretien d'embauche. Donc, il est très, voilà, très bien mis, très propre sur lui. On imagine qu'il a bien travaillé son entretien, etc. Et puis, quand il est reçu, la personne qui le reçoit, c'est un trisomique. Et le trisomique va l'interroger sur des questions qui ne sont pas celles qu'on pose d'habitude dans un entretien d'embauche. Il va l'interroger non pas sur ses connaissances, sur ses savoirs, sur ses savoir-faire, mais sur son être, sur sa capacité à être avec les autres, à se réjouir, à être solidaire, etc. Et même pas sur l'éthique, mais sur la joie d'être, la joie de vivre, etc. Et voilà, c'est une vidéo qui met en évidence cela, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la folie peut s'avérer être un révélateur d'une folie encore plus grande que nous, on appelle sagesse. C'est ce qu'a mis en évidence la psychanalyse. C'est que ce qu'on appelle régulièrement la folie, les fameux fous, même le fou du village, en fait, met en évidence des systèmes sociaux qui provoquent de la folie, qui rendent fous. Et en fait, les fous sont parfois juste les symptômes de ce que nous produisons, nous qui nous disons dans le normal et pas dans le pathologique. Je finis juste sur la question de la faiblesse. La faiblesse aussi, elle est en évidence dans les sports collectifs. Je vous citerai pas quel est le match du PSG auquel je pense en particulier, mais vous savez, il y a eu quelques matchs qui se sont joués sans Zlatan Ibrahimovic, sans quelques stars finalement, et où le PSG a quand même gagné, parce que la faiblesse a permis de mettre en évidence la nécessité de ne pas se reposer sur des talents intrinsèques, mais sur le collectif. Et donc, la faiblesse a permis de mettre en évidence une puissance supérieure disponible lorsqu'on n'est pas dans l'autosuffisance. Et ça, c'est vrai dans d'autres situations. Il y a Robert Sutton, qui est un professeur à Stanford, qui observe les fonctionnements en entreprise. Et il observait une entreprise où, avec des commerciaux, il y en avait un qui était très, très bon. Il avait le meilleur chiffre. Il dépassait vraiment tout le monde de très, très loin. Et selon la typologie qu'il utilise, c'était un sale con. Et il constate que quand le management a fait que cette personne a été licenciée, eh bien effectivement, personne n'a atteint son niveau. Mais en fait, tous les autres ont progressé. Et le résultat d'ensemble était supérieur à ce qu'il était autrefois. Pourquoi ? Parce qu'on avait enlevé l'élément qui, par sa suffisance, humiliait le reste et bridait le reste et empêchait le reste de l'équipe de pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc, parfois, c'est la faiblesse qui, effectivement, permet de mettre en évidence la vraie folie ou la vraie faiblesse. Le verset 28, donc, Dieu a choisi les choses viles, c'est-à-dire non advenues, en fait. Les choses qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, donc c'est ce que je viens de vous dire, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Bon, voilà, là, c'est clair. Non, c'est pas clair ? Oui, c'est ça, que personne ne se vante. Je prends l'exemple ici pour essayer d'enfoncer un peu le clou, parce que personne ne me croit. Mais un bon prédicateur à l'oratoire, c'est pas un individu qui a des talents particuliers et qui vraiment ferait la différence. C'est en fait quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de la communauté et qui profite de l'énergie, de l'humanité de la communauté pour pouvoir produire quelque chose qui va être de qualité. Mais prenez tous les grands prédicateurs de l'oratoire, donc ça, vous regardez dans le passé, et vous verrez que c'est ceux qui ne lisaient pas un texte qu'ils avaient écrit pour avoir une bonne note de théologie, mais ce sont ceux qui étaient à l'écoute de la communauté. Je prends Pierre Fatt, par exemple, parce que je l'ai connu, j'ai discuté avec lui de cette question-là. Il me disait qu'il adorait la prédication parce qu'il voyait les réactions de la communauté et sa prédication évoluait en fonction de ce que la communauté lui donnait à voir, le moment précis. Bon, quand vous prêchez devant des catéchumènes, qu'ils soient expressifs ou non expressifs, ils communiquent quelque chose. Si vous en brillez dessus, il se passe des choses. Bon, donc ne pas se vanter, parce que face à Dieu, nous découvrons que nous recevons. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça, c'est écrit dans Jérémie, chapitre 9, versets 22 et 23. Ceux qui ont des notes l'auront repéré. Cela signifie, donc, comme conclusion, que Jésus sur la croix ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. C'est l'échec. C'est l'échec absolu. Mais il ne peut pas se glorifier devant la logique des hommes, qui est la logique de la violence, du pouvoir, en tous les cas de la préservation des acquis, sociaux ou pas. Eh bien, ce dont peut se justifier Jésus, c'est d'avoir vraiment fait preuve d'amour et de ne pas avoir cédé un pouce là-dessus. Et même sur ceux qui l'abandonnaient, ceux qui le trahissaient, il a laissé la possibilité d'un changement possible, notamment en leur disant quelles pouvaient être les conséquences de ce qu'ils allaient faire. Ils n'en ont pas tenu compte, mais au moins, il leur a donné la possibilité de pouvoir changer. Et même à Pilate, il lui dit, en fait, tout cela n'arriverait pas si tu ne tirais pas ton pouvoir d'un autre que toi-même. Et donc, peut-être que tu pourrais faire preuve d'une humilité encore plus grande. Du coup, Pilate se dit, bon, je vais essayer de le libérer, parce qu'effectivement, force est de constater que, sauf à vouloir utiliser cette stratégie, il vaut mieux qu'un homme meure plutôt qu'une bonne dizaine dans une émeute, etc. Il faut que je libère, parce qu'il est innocent. Et la vérité, c'est qu'un innocent doit être libéré. Bon. Ensuite, le début du chapitre 2, pour finir notre texte. Donc, Paul va finalement se justifier en utilisant les arguments qu'il vient de déployer. « Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Donc, vous voyez, Paul y est allé en toute humilité. C'est quand il est faible qu'il est fort, parce que Dieu peut donner toute sa puissance dans un homme faible, parce que c'est un homme poreux, un homme avec des failles, un homme qui laisse passer autre chose que lui-même. Alors que quelqu'un qui s'est bétonné, eh bien en fait, il ne peut compter que sur lui-même. Et quelqu'un qui ne peut compter que sur lui-même, en fait, il ne peut pas compter sur grand-chose. On est quand même des êtres très finis. Bon. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, un rappel de cette dynamique mort et résurrection. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Donc ça, c'est une citation d'Ésaïe 19, verset 16. Crainte et tremblement, vous disiez que c'était aussi le titre de Kierkegaard. La citation d'Ésaïe 19, elle se fait dans un contexte de jugement de l'Égypte. L'Égypte qui est considérée comme l'ennemi d'Israël. Eh bien, ici, il y a un changement de perspective. C'est-à-dire que c'est celui qui est faible qui est pardonné. C'est le coupable qui est justifié. C'est le pécheur qui est pardonné. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus minable, je réemploie ce terme, ce qu'il y a de plus minable et qui donc est méprisable, s'avère être ce qui est porteur des plus grandes promesses. Peut-être qu'on le voit avec les enfants quand même. Les enfants polis sont ceux qui savent dire « après vous ». Les adultes aussi. C'est Paul Ricoeur qui disait ça tout simplement. Qu'est-ce qu'une bonne éthique ? Eh bien, c'est quand on est capable de dire « après vous ». On est dans une société où il faut être le premier, hein. Quitte à marcher sur l'autre et avoir des cadavres dans le placard, c'est pas bon, ça devient un peu problématique ces temps-ci parce que la transparence. Mais autrefois, c'était quand même monnaie courante. Voilà. Alors, maintenant, je propose qu'on ait un peu une discussion sur, voilà, un peu plus théologique. Moi, il me semble que la croix chez Paul, le thème de la croix, vise ici à refonder la rationalité. C'est-à-dire que Paul va utiliser la croix comme nouvelle manière d'envisager, enfin, comme nouvelle grille de lecture, en fait. Si on regarde ce qu'est la croix, c'est ce que vous avez dit un peu les uns les autres, une sorte de paradoxe de la communication. C'est-à-dire que la croix, c'est ce moment où il y a une irruption dans la sagesse humaine d'un autre ordre des choses. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement de l'ordre des choses. Ce que l'on estimait glorieux devient inhumain, et ce que l'on estimait méprisable devient la figure ultime de l'humanité. Donc, de ce point de vue-là, il y a une communication paradoxale. Avec Karl Barth, on appellerait ça une communication dialectique, en fait. La résurrection est pour bientôt. Oui.
Est-ce que à l'époque de Jésus, de Paul, on ne croyait pas que la fin du monde allait arriver et que ça pouvait, la résurrection était où les born again, vous avez dit naître à nouveau, était pour était très proche finalement.
Oui, alors.
Parce que ça ne change pas tout.
Oui, donc vous dites effectivement, on est dans l'attente d'une fin du monde proche, donc ça peut changer le rapport des choses. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, indépendamment d'une fin du monde proche, le raisonnement de Paul reste vrai. C'est-à-dire que ce qui lui permet d'avoir de nouveaux critères pour apprécier la qualité d'une situation est vrai quel que soit le temps que durera le temps qui reste à s'écouler. Oui. Oui.
La fin du monde. L'arrivée de Jésus.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui nous concerne, qui est important? Est-ce qu'on y croit à ça? Est-ce qu'on est dans cette attente?
Paul, à la fin de son ministère, ne l'était plus dans cette attente. Paul, à la fin de son ministère, a compris qu'il fallait inscrire la foi chrétienne dans la durée. Et il a finalement réinterprété l'irruption du royaume de Dieu, non pas dans un futur proche, mais dans le présent. Ce qui a conduit les évangélistes à dire « il est déjà là et pas encore », mais à dire « le royaume de Dieu est déjà, pour une part, dans l'ordre de notre présent ». Sous-entendu, il n'y a pas besoin d'attendre un au-delà de notre vie biologique pour commencer à être aimant, par exemple, ou pour faire preuve de bienveillance. Tout l'enseignement de Jésus est déjà à mettre en application, y compris le sermon sur la montagne. Ce qui va conduire à des théologies politiques, d'ailleurs, en Amérique du Sud, théologie de la libération, considérant que si on est dans une situation où un pouvoir nous rend esclaves, eh bien, il est un impératif de s'en libérer dès à présent. La question du pardon est à vivre dès à présent. C'est ce qui va faire d'ailleurs l'une des grandes différences entre le christianisme et l'islam. C'est que dans la perspective musulmane, le pardon est accordé par Dieu seul et donc rapporté à après la mort. Alors que dans la perspective de Jésus, le pardon est donné dès à présent. Et donc c'est dès à présent qu'il faut être dans cette logique du don et du pardon. Donc la question de la temporalité a une incidence, mais elle a été assumée par Paul en cours de route, voyant finalement que les gens commençaient à mourir et qu'il n'y avait pas pour autant de retour du Seigneur. Et donc il a compris que ce qu'on pouvait appeler le retour du Seigneur n'était pas un retour, disons, corporel pour faire vite, mais de pouvoir réinjecter dans notre éthique, dans notre comportement, dans notre vie quotidienne, les jalons que Jésus avait lui-même posés. Si je reviens sur la croix, on peut se dire, on va toucher un petit peu à la question de l'anthropologie, que la croix met à mort un individu qui s'est singularisé. Un individu qui a été unique en son genre, en ce sens qu'il n'a pas du tout essayé de chercher le compromis avec ceux qui détenaient le pouvoir de l'époque. C'est d'ailleurs le sens de la recherche de Christian Fou, qui montre que Jésus, finalement, se posait en concurrence avec le pouvoir de l'époque, et un pouvoir qui a donc éliminé Jésus parce qu'il était singulier, c'était pas l'un des leurs. Et quand on tue la singularité, c'est là que ça devient de l'anthropologie, en fait, on tue la possibilité de l'universel. C'est-à-dire qu'il n'y a, dans une perspective orientale, orthodoxe orientale notamment, Nicolas Berdiaev, il n'y a d'universel possible que dans la mesure où il s'incarne dans du singulier. Et si on tue le singulier, alors on rend impossible l'universel. Méditez cette réflexion-là. Si elle ne fait pas écho tout de suite, vous la mâchouillez et un jour, ça va venir.
Au lieu d'universel, on dit
disons, qui est valable pour un autre que moi-même, en tout cas. Et la pluralité peut être une des conditions de l'universel. La mort de Jésus, elle met en évidence la question de la justice. La loi, finalement, elle ne s'intéresse qu'aux qualités ou aux non-qualités de la personne. Et du coup, elles sont toujours transitoires. Enfin, bien sûr, on a toujours les mêmes 10 paroles du décalogue, mais l'interprétation a évolué au fil du temps. Si on prend un code pénal, les infractions évoluent au fil du temps. Donc en fait, on voit bien que c'est transitoire. Alors bien sûr, un meurtre, mais non, pas forcément. Le principe de légitime défense, ça a évolué au fil du temps. Le meurtre passionnel, ça a évolué au fil du temps. Il y a un moment où tuer l'amant, t'es pas passible de peine très grave.
Conduire en état d'ivresse et tuer une personne, ça a évolué.
Bien sûr, la question de l'avortement a évolué, la question du viol a évolué, la question du crime contre l'humanité a évolué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a pénalisé des choses qui n'étaient pas pénalisées avant, mais la gravité a pu changer, ou au contraire, des choses ont pu être dépénalisées. L'interruption volontaire de grossesse a été dépénalisée.
Je ne suis pas sûr, pour reprendre ton exemple du meurtre passionnel, que c'est autant évolué. Je pense qu'au contraire, le meurtre passionnel, si on se rend en place, je ne sais pas, au XVIIe siècle ou autre, une pièce de Racine, de Corneille.
Mais les peines
qui vont être. Oui, je pense que ça a toujours été considéré avec une certaine, finalement, je ne sais pas, bienveillance ou acceptation.
Mais aujourd'hui, c'est plus accepté. Aujourd'hui, c'est plus accepté, c'est...
J'ai pas de passion.
Ceci pour dire que la loi, les articles de loi sont quand même des valeurs transitoires ou relatives. Oui.
Ouais. La sagesse de Dieu qui est une sagesse d'une autre logique.
Oui.
On peut presque faire la même chose à partir de vos exemples sur la justice. La justice de Dieu, elle est du côté de la justice des hommes quand elle dit protéger la veuve et l'orphelin, un certain nombre de choses comme ça qui sont de l'ordre du bon sens et de la justice humaine.
Oh, c'est pas du bon sens de protéger les faibles. Beaucoup considèrent que les faibles sont des parasites.
Si on veut
qu'ils vivent, et voilà. Mais pourquoi faire vivre des parasites, diront certains.
Mais même cette justice me semble relativement du bon sens. La justice de Dieu, dans le deuxième Ésaïe, elle n'est pas de cet ordre-là. Puisque le serviteur souffrant, qui est un bon serviteur, etc., apparemment, c'est pas juste qu'il souffre. Donc il y a toujours cette idée que et la sagesse de Dieu englobe la sagesse du banal, j'ai envie de dire. Et puis elle a quelque chose de dérangeant et tout à fait différent et qui pose question. Et de la même façon, notre réflexion sur la justice, ça me fait penser que c'est pareil pour la justice de Dieu.
Oui.
Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça de grands absolus dans lesquels l'absolu de Dieu, non seulement est un changement de paradigme, mais un espèce de renversement par moment de bon sens.
C'est-à-dire que là, on a quand même les grosses têtes de chapitre. C'est plutôt dans le détail qu'on va pouvoir voir comment ça s'applique. Vous preniez l'épisode du serviteur souffrant, donc c'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Quelle est la grande caractéristique du serviteur souffrant? C'est pas tant qu'il souffre alors que c'est injuste, c'est qu'en plus, il va dans le tombeau avec ses ennemis, sous-entendu pour créer une communion qui va pouvoir sauver ses ennemis.
Et manifester la gloire de Dieu,
parce que la gloire de Dieu, elle se manifeste dans un amour inconditionné. Et donc, la radicalité, elle s'exprime dans l'absence de limite à l'amour, par exemple. Alors, vous voyez, l'amour, c'est effectivement un peu la tarte à la crème, ça peut être bien gentil. Sauf que quand celui qui se tient face à moi prend les traits qui sont les siens, et qui ne sont pas forcément des traits très aimables, et là, l'amour devient autre chose qu'un bon sentiment. Et la radicalité, du coup, va s'exprimer dans le fait qu'on ne transige pas avec cela. Même si on est toujours à essayer de négocier en permanence, en se disant, allez, il y a quand même, je sais pas, on est prêt à sacrifier. Oui, il y a quand même beaucoup de choses qu'on est prêt à sacrifier, alors qu'en fait, on devrait sortir de la logique sacrificielle. On est prêt à sacrifier une personne pour le bien d'une société. On est prêt peut-être à sacrifier un enfant pour le bien d'une famille. Enfin,
Oui, même un fou, par exemple, vous parlez de la folie et du fait que c'était souvent que la folie était le symptôme d'un certain type de société.
Oui, c'est-à-dire qu'on est capable de sacrifier le maillon faible.
Voilà.
Et Dietrich Bonhoeffer, pour ne pas citer Karl Marx, Dietrich Bonhoeffer disait « À quoi se repère la force d'une chaîne ? Eh bien, à son maillon faible. » Et donc, ce que nous faisons des maillons faibles dit quelque chose de ce que nous sommes. Et c'est le principe de la croix. C'est que, justement, ce qui peut apparaître comme le maillon le plus faible a été restauré par Dieu. Je finirai en disant que ce qui peut être intéressant avec une théologie de la croix, c'est que non seulement elle disqualifie une théologie de la gloire ou une théologie de la prospérité, qui ont eu cours notamment dans les pays anglo-saxons, mais peut-être qu'elle pose les bases de ce qu'est une église dans une société sécularisée. Je vous dis pourquoi. Quand il y a l'épisode de Jésus mourant sur la croix, on peut se souvenir que le voile du temple se déchire et qu'il y a donc une sorte de profanation du temple. C'est-à-dire que la partie la plus sacrée, le Saint des Saints, est ouverte au reste du monde. Alors, on peut parler de profanation, mais on peut aussi parler de sacralisation du monde. Et ça me semble être un peu plus intéressant. C'est-à-dire, finalement, de dire qu'il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane, que c'est toute l'existence qui est à penser en fonction du sacré. On pourrait dire que c'est toute l'existence qui est finalement ressuscitée, qui est au bénéfice de cette dynamique mort et résurrection. Et du coup, peut-être que l'impact sur l'Église, c'est que l'Église, par cette profanation, n'est plus la gestionnaire du sacré, elle n'est plus en charge du rituel, elle devient en charge de celui qui est sur la croix. C'est-à-dire qu'elle devient en charge de l'individu. Elle devient en charge de l'identité véritable de la personne. Et on pourrait se dire qu'il y a deux grandes façons de comprendre ce qu'est une Église. Soit l'Église est effectivement récipiendaire d'une tradition, d'un trésor de la foi, et elle doit répéter fidèlement les gestes et les paroles qu'elle a reçus, ou l'Église est récipiendaire d'un appel, une question dans ce texte, et l'appel, c'est prendre soin de l'identité de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui va se vivre dans la vie quotidienne, et qui va se vivre à travers le rituel, mais pas seulement. Et donc, quand on dit l'Église, la foi devrait être reléguée au registre du privé, eh bien, c'est peut-être un risque que l'on fait courir à la société, c'est de se priver de ces personnes qui sont capables de prendre soin des individus indépendamment de leur qualité, indépendamment de leur réussite, autrement dit, capables de prendre soin d'une personne par grâce seule. Et le crucifié, c'est celui dont Dieu prend soin alors qu'il n'a plus l'apparence d'une personne digne d'être sous un regard bienveillant.
C'est assez idéal ce que tu dis.
Ouais.
Les systèmes religieux sont quand même pas mal fondés sur fondée sur la différence, enfin, avec le contraste. Mmh. Nous, et la première chose qui découle de ça, c'est l'autre n'est pas sauvé, parce qu'il n'est pas du bon côté.
Oui.
Ça bloque tout de suite.
Eh bien, quand Marcel Gaucher dit que le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion, il semble le dire comme un fait malheureux qui serait advenu au christianisme, la religion de la sortie de la religion. Eh bien, je crois que c'est le projet même de l'Évangile, le christianisme comme religion de la sortie de la religion, et ça se traduit par la première épître de Pierre qui dit que nous sommes un peuple de prêtres. Et le fait que nous soyons un peuple de prêtres fait que nous sommes tous gestionnaires du sacré, et cette gestion du sacré, elle se fait donc pas par la distinction entre ceux du dedans et ceux du dehors, et dans le fait que nous soyons dans une communion, et dans une solidarité, dans une fraternité. Sacré progrès, mais comme disait Théodore Monod, ça serait bien qu'un jour on l'applique.
Mais qu'est-ce que vous pensez?
Oui.
Je te dis que l'Église était réciproque, ainsi qu'il y en ait un appel. Ça ne pourrait pas fonder une distinction un petit peu entre les Juifs et les chrétiens. Les Juifs sont plutôt réciproquaires d'une loi qu'ils essayent de.
Une alliance.
Ancienne qu'ils essayent de.
Une alliance.
Une alliance. Je suis d'accord. Les chrétiens sont plutôt réciproquaires à la place.
Il faudrait voir avec des rabbins et en parler avec eux. Moi, je serais prêt à défendre la position d'un judaïsme qui répond à un appel, c'est-à-dire l'appel lancé à Abraham, notamment. Quitte ton pays, ta parenté, ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. Et le pays que je te montrerai, c'est cette terre promise où il est possible de rendre un culte à Dieu selon les modalités de l'Évangile, plutôt que selon les modalités de la sagesse du monde qui est l'apparat. C'est-à-dire que l'intuition de la réforme, c'est bien de se dire, notamment Luther qui va à Rome, et c'est pas possible, c'est pas ça l'Église. C'est pas le faste, c'est pas la para, c'est pas le décorum. La question du salut, elle se joue pas là-dedans. La question du salut, elle se joue dans le face-à-face que chacun va avoir avec le divin. Et la capacité que l'homme a de se tenir devant Dieu, c'est-à-dire d'avoir une vie en plénitude. Et donc, là, je crois que c'est deux conceptions de l'Église qui s'affrontent au fil des siècles. Et deux conceptions de la religion qui s'affrontent au fil des siècles. Un islam extrémiste, radical, c'est quand même un islam qui, au lieu d'être au service, se sert des autres, hein, qui prend le pouvoir. Et je comprends que les musulmans disent qu'il y a un dévoiement de l'islam. Et de même, dans notre contexte chrétien, il est des moments où ça confine à l'esprit sectaire. Et là, on ne prend plus soin des personnes, on s'arrange pour que les personnes prennent soin de l'institution. Et donc, vous voyez, il y a un total renversement. Et la croix, elle est là comme ce qui nous permet de pouvoir distinguer le bon grain de l'ivraie pour autant que ce soit possible. Voilà, pour ce coup-ci.